Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire France Catholique, la revue commentée. À l'aube de la Semaine Sainte, France Catholique propose un dossier consacré au précieux sang de Jésus, dont vous dites que c'est une dévotion trop peu connue et à redécouvrir.
Oui, parce que depuis sa suppression en tant que fête, vraiment en tant que telle, du calendrier liturgique, hein, à la fin des années 60, eh bien, inévitablement, la dévotion au précieux sang de Jésus s'est étiolée. Alors aujourd'hui, il faut rappeler que la fête du précieux sang a été couplée à la fête du corps du Christ, hein, ce qu'on appelle la fête Dieu. Donc lors de la fête Dieu, on fête tout à la fois le corps et le sang du Christ, de la même façon que lors de la messe, c'est le corps et le sang du Christ qui sont proposés aux fidèles. Et effectivement, la dévotion au précieux sang du Christ est à redécouvrir, et c'est ce que nous efforçons de proposer à nos lecteurs dans le nouveau numéro de France Catholique. D'abord parce que, j'allais dire presque d'un point de vue factuel, matériel, eh bien, le sang du Christ est un élément qui est très important de la foi catholique, puisque c'est un élément qui est relativement très présent dans les évangiles, puisqu'on relève, et le chiffre d'ailleurs n'est peut-être pas anodin, on relève sept mentions du sang du Christ dans l'Évangile. C'est d'ailleurs ces sept mentions du sang du Christ dans l'Évangile eh bien que Dom Marc Guillot, qui est père abbé de Sainte-Marie de la Garde, qui est un monastère bénédictin, qui propose une série de méditations sur cette sept occurrences du sang dans l'Évangile. Il y a d'abord la circoncision du Christ, hein, lorsque Marie et Joseph le présentent au temple. Il y a la sudation lors de son agonie, ou vraiment poussé par l'angoisse, eh bien, Saint-Luc nous raconte comment le Christ suait, perlait des gouttes de sang. Il y a évidemment la flagellation, le couronnement d'épines, le transpercement des pieds, le transpercement des mains, et enfin le transpercement du cœur. Voilà donc les sept épisodes durant lesquels le sang du Christ va couler. Et donc de ces sept effusions de sang, le père abbé du Barreau tire de beaux enseignements. Alors évidemment, cette dévotion au précieux sang n'est pas sans difficulté. On peut par exemple songer à la phrase du Christ, hein, dans l'Évangile, lorsqu'il dit: Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Et effectivement, ce discours peut encore aujourd'hui sembler assez troublant, et la preuve en est qu'il était tellement troublant même à l'époque, que Saint Jean rapporte que lorsque les disciples du Christ, eh bien, entendirent le Christ lui-même dire qu'il fallait manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie en soi, eh bien, un certain nombre d'entre eux quittèrent le Christ lorsqu'ils s'aperçurent qu'il ne parlait pas métaphoriquement, mais qu'il parlait bien de manger sa chair et de boire son sang. Et donc, dans cette chronique brillante d'apologétique, Frédéric Guillot nous explique pourquoi l'Église affirme que le vin consacré lors de la messe devient véritablement le sang du Christ. Hein, on sait que c'est un point, cette question de des saintes espèces, hein, du pain et du vin qui deviennent véritablement le corps et le sang. Ce sont toujours des points qui peuvent être des points de difficulté parmi les catholiques. Et il faut reconnaître à Frédéric Guillot une pédagogie certaine, et dans cette chronique d'apologétique, il démontre brillamment pourquoi cette idée de vin qui devient véritablement le sang du Christ, eh bien, est une idée qui est tout à la fois, je veux dire, recevable malgré le mystère, bien sûr, inhérent à ce phénomène, et surtout en quoi c'est parfaitement logique et parfaitement rationnel au regard du développement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.
Signe de l'importance de cette dévotion, les saints ont beaucoup évoqué le sang du Christ, mais aussi son cœur transpercé.
Oui, c'est toujours un bon signe, hein. Regardez un peu ce que les saints disent, et quand on s'aperçoit qu'au fil des siècles, eh bien, il y a toujours une idée, une dévotion qui revient assez souvent, c'est souvent un signe de la légitimité de cette dévotion. Et le cœur transpercé, donc c'est ce texte, hein, signé Émilie Pourbet dans la chronique hebdomadaire que nous avons consacré au Sacré-Cœur. Donc nous faisons d'une pierre deux coups, nous parlons à la fois du Sacré-Cœur et en même temps du sang du Christ. Bah, il faut bien reconnaître que cette image, hein, d'un transpercement du côté du Christ, d'où jaillit Le sang et l'eau est une source évidente de contemplation. Alors il faut rappeler que c'est une scène hein, qui est mentionnée uniquement par Saint Jean, qui était présent au pied de la croix. Et d'ailleurs, ce transpercement du côté du Christ, d'où vont jaillir le sang et l'eau, eh bien, il y a une explication logique. Hein. On rappelle que pour éviter que le Christ ne reste en croix lors du sabbat et que donc on ne puisse pas descendre les corps, eh bien, les Juifs demandent à Pilate d'enlever les corps des crucifiés en hâtant leur mort, donc avant le sabbat, pour cela en leur brisant les jambes, puisque eh bien, lorsqu'une personne est crucifiée, le fait de, sans entrer trop dans les détails, le fait de briser les jambes, eh bien, la pousse à s'asphyxier plus rapidement et donc à mourir plus rapidement. Or, lorsque les soldats qui brisent les jambes des autres crucifiés aux côtés du Christ, eh bien, vont devant la croix du Christ, ils s'aperçoivent que le Christ est déjà mort. C'est la raison pour laquelle ils ne brisent pas ses jambes, accomplissant d'ailleurs par là même le psaume hein, qui dit que pas un de ses os ne serait brisé. Et donc, plutôt que de briser ses jambes, bien pour s'assurer, pour bien vérifier qu'il est mort, ils transpercent. Le soldat transperce le cœur du Christ avec sa lance, d'où jaillit le sang et l'eau. Alors effectivement, beaucoup de saints ont parlé, ont médité sur ce sang du Christ qui jaillit de son côté transpercé. On peut par exemple parler de Sainte Catherine de Sienne qui, lors d'une apparition du Christ, demande au Christ pourquoi est-ce qu'il a voulu que ce côté soit transpercé. Et le Christ lui répond, je voulus donc en vous montrant mon côté ouvert que vous voyiez le secret du cœur, afin que vous voyiez que j'aimais beaucoup plus que je ne pouvais le montrer avec ma souffrance finie. Voilà pour Sainte Catherine de Sienne. On peut également citer, et c'est Émilie Pourbet dans cet article qui la cite, Sainte Gertrude d'Evta, hein, qui dit « Jésus, ma douce espérance, que votre divin cœur, déjà déchiré par amour pour moi et ouvert pour tous les pécheurs, soit l'asile assuré de mon âme », une formulation très belle, très poétique, que les auditeurs de Radio Maria, et voilà, sont peut-être... ça leur dit peut-être quelque chose, parce que c'est une idée que l'on retrouve, par exemple, dans la prière dite de l'anima Christi, âme du Christ, qui est parfois récitée ou chantée à la fin des adorations, où dedans cette vieille prière, eh bien le fidèle dit au Christ, dans tes blessures, cache-moi. Donc il y a cette idée que dans le cœur du Christ, dans la blessure sur le côté du Christ, cette blessure ensanglantée, eh bien le fidèle peut venir s'abriter. Alors nous proposons également ce que les saints disent du sang du Christ plus spécifiquement. Nous citons Saint Jean Chrysostome qui parle du sang du Christ comme salut des âmes, de Saint Ambroise qui parle de l'or le plus précieux, de Saint Thomas d'Aquin qui parle de clé du paradis. Et puis on peut peut-être citer également, mais il y a beaucoup trop d'autres saints que nous citons dans ce numéro de France Catholique, on peut peut-être citer cette très belle phrase de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui est le modèle des confesseurs et qui rappelait, je cite, hein, que lorsque le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que tout le sang, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Voilà donc quelques citations de saints sur le sang du Christ et le cœur, le Sacré-Cœur transpercé du Christ qui sont matière à nourrir la réflexion et la prière des lecteurs de France catholique et j'espère des auditeurs de Radio Maria.
Et comme nous approchons de la Semaine Sainte, vous revenez sur la personne de Ponce Pilate dans un entretien avec Anne Bernet qui avait signé une biographie qui ressort aujourd'hui en poche. Elle s'interroge, Pilate s'est-il converti?
Alors, effectivement, il faut rappeler hein, que c'est bien une hypothèse, mais ce n'est pas dénué de fondement. Il faut dire que le personnage de Pilate est quand même un personnage vraiment à part et fascinant dans les évangiles. Souligner que le dialogue qu'il a avec le Christ lors de sa passion est un dialogue qui est quand même très long, relativement long, qui occupe une place deux fois dans les évangiles. Alors, c'est un personnage qui a tous les qualificatifs. Hein. Pilate est souvent qualifié de lâche, puisque c'est celui qui va se laver les mains et qui va livrer le Christ pour qu'il soit crucifié, hein, en se lavant les mains. Et il dit qu'il se lave du péché qui est de livrer le Christ. Alors on a souvent dit que c'était l'image de la lâcheté politique qui cède face à la pression de la foule. Et donc Anne Bernay, comme vous le rappelez, qui avait signé ce livre, Mémoire de Ponce Pilate, et qui est ressorti en janvier 2024 aux éditions Effata en version de poche, eh bien, cherche à, alors on ne va pas dire réhabiliter Ponce Pilate, bien sûr, mais essayer de comprendre ce personnage et de le resituer. Essayer de comprendre quelle était sa vie. Alors selon lui, eh bien Anne Bernay rappelle, pardon, selon Anne Bernay, Ponce Pilate n'était pas quelqu'un de libre. D'un point de vue, je veux dire, strictement historique, il faut rappeler que Ponce Pilate était sous la surveillance du gouvernement de Syrie, était sous la surveillance de Rome. Il était dans une zone qui était agitée par les révoltes. Et il savait bien qu'il était sous surveillance, qu'il avait une obligation de résultat et qu'au moindre faux pas, il risquait le jugement de Rome, il risquait même l'exécution et que sa famille aussi. Malgré tout, eh bien, Ponce Pilate va essayer, pendant une grande partie de ses entrevues et une grande partie de la Passion du Christ entre le moment où il lui est présenté et le moment où il est envoyé se faire crucifier, eh bien, Ponce Pilate essaye de faire libérer le Christ. Il discute avec la foule et d'ailleurs les fidèles catholiques et ceux qui assisteront aux messes lors de la Semaine Sainte entendront ces passages, ces dialogues vraiment saisissants entre Pilate et le Christ et entre Pilate et la foule. Et Anne Bernay nous rappelle que le moment où Pilate va vraiment abandonner, va capituler face à la foule, c'est lorsqu'il entend un cri d'un pharisien qui lui dit, si tu le relâches, si tu relâches le Christ, tu n'es pas l'ami de César. Cette phrase prise littéralement, tu n'es pas l'ami de César, on pourrait se dire que c'est un peu anodin. Non, Ponce Pilate comprend bien ce que ça veut dire. Quand on dit tu n'es pas l'ami de César, c'est une menace à peine voilée. Sous-entendu, si tu ne relâches pas, si tu relâches plutôt le Christ, eh bien, tu risques toi-même d'être exécuté. Alors, la rencontre de Pilate avec le Christ le change sans doute à tout jamais. Ceci, c'est une hypothèse que dessine Anne Bernay. Elle souligne d'ailleurs que Ponce Pilate s'implique personnellement à faire libérer le Christ, alors même qu'à l'époque, les magistrats auraient plutôt signé sans état d'âme l'ordre d'exécution, sans chercher vraiment à comprendre. Il accepte également de restituer le corps, alors que c'est contraire aux usages. Et tout cela pousse Anne Bernay à affirmer, selon elle, que Ponce Pilate s'est converti à la foi chrétienne, en rappelant bien sûr que l'Église reste plutôt discrète sur ce point de vue-là, même si, selon la tradition romaine, eh bien, Pilate ferait partie des martyrs chrétiens de Néron en 64. D'autres chrétiens dans le monde, on peut penser par exemple aux Coptes d'Éthiopie, hein, les Coptes orthodoxes d'Éthiopie, eux sont allés carrément plus loin, puisque Ponce Pilate est considéré chez eux comme un saint. Alors, je cite enfin la très belle hypothèse d'Anne Bernay pour avancer cette idée de la conversion. Elle explique qu'en restituant le corps, eh bien, Pilate apporte à la Vierge Marie l'unique consolation humaine à la douleur de la Vierge Marie. Et s'interroge Anne Bernay, comment ne pas supposer qu'en remerciement, eh bien, la Sainte Vierge a obtenu pour Ponce Pilate les grâces de sa conversion nécessaires à son salut. Alors, encore une fois, on rappelle, hein, que tout cela est une hypothèse. Mais malgré tout, voilà, toute l'interview que nous a accordée Anne Bernay est passionnante parce que c'est une vraie enquête qu'elle mène, et puis qu'à défaut d'être une vérité proclamée par l'Église, là encore, cela peut être une source de méditation pendant la Semaine Sainte.
Merci beaucoup Constantin et nous terminons avec notre Tour de France des sanctuaires mariaux. Aujourd'hui, nous allons dans le Tarn et Garonne au pied de Notre-Dame de Livron.
Oui, à 45 km au nord de Montauban, nous sommes au 10e siècle, en l'an 960, il y avait à l'époque dans une grotte, un dragon, alors, ce qu'on appelle un dragon, ça devait être un énorme reptile qui terrorisait la population et qui sortait de son repaire chaque semaine pour se nourrir, tuant non seulement le bétail, mais aussi les habitants des villages voisins. Raison pour laquelle les habitants de Quélus, sa petite commune, font appel à un chevalier, un dénommé chevalier de Lagardelle, pour tuer ce dragon, alors que le chevalier s'élance pour combattre le dragon, eh bien, les habitants font une prière à la Vierge Marie et, là encore, disent à la Sainte Vierge, si le chevalier, si vous accordez la victoire au chevalier, eh bien, nous promettons de construire un sanctuaire sur les lieux de la défaite du dragon. Le chevalier bat le dragon et les habitants, pour honorer cette promesse faite à la Vierge Marie, vont construire le sanctuaire. Là où c'est amusant, c'est qu'ils vont bâtir le sanctuaire non pas au lieu exact du combat, qui était dans un creux, mais parce que c'est plus facile, décident de poser les fondations dans un endroit un peu plus simple pour bâtir et qui est une colline. Sauf que un jour, eh bien, des anges vont descendre du ciel, raconte-t-on, pour prendre les fondations et les déplacer et pour le remettre à l'endroit exact de la défaite, telle que la promesse des habitants envers la Sainte Vierge avait été émise. Dès lors, un sanctuaire a été construit, attirant les habitants de tous les coins, et le lieu prit le nom de Notre-Dame des Délivrances, même si au fil des siècles et au fil des évolutions de la langue, Notre-Dame de Délivrance est devenue Notre-Dame de Livron et qu'il est aujourd'hui habité par une communauté de carmélites. Et le sanctuaire est encore vivant et bien vivant puisque ces sœurs carmélites accueillent des retraites tout au long de l'année.
C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Et pour ceux qui ne suivraient pas encore France Catholique sur les réseaux sociaux, vous pouvez les suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci, Constantin, pour votre disponibilité et ce temps passé avec nos auditeurs.
Merci Claire, et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.